affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Toutes les époques sont certainement traversées de tensions et de paradoxes, mais force est de constater que la nôtre, qui se veut pourtant plus sage que les précédentes, n'en est pas exempte. Ainsi, pour n'en choisir que quelques-uns, notre époque prétend être revenue des idéologies, mais manifeste pourtant une peur bleue du réel. Elle se veut laïque, mais pratique sans retenue l'excommunication. Elle proclame que seule la différence enrichit, mais s'émeut de la moindre divergence. Elle prétend se défier de tout essentialisme, mais classe dans une étrange et un peu glaçante taxinomie les intellectuels entre fréquentables et infréquentables. Elle se veut libérale, voire libertaire, mais n'hésite pas à en appeler aux tribunaux pour décider qui devrait avoir ou non le droit de s'exprimer. Elle se veut progressiste, chérit l'avenir et la nouveauté, mais croit que l'avenir est voué à l'apocalypse. Dans une telle époque, il est donc pour le moins délicat de penser et de s'exprimer librement. Il est tentant de devenir stratège, de s'accommoder avec le réel, de donner des gages, pour ne pas être mis hors jeu, bien sûr, pour ne pas être mis à l'index, pour ne pas être insulté non plus. Et de façon symétrique, il peut être tentant d'y jouer le rôle du méchant, de s'installer dans l'infréquentabilité comme dans une rang, de s'auto-caricaturer. Notre invité de ce jour, Dieu merci, n'a jamais cédé à ces tentations. Livre après livre, avec patience et mesure, il s'attache à coller au réel, à la compréhension de celui-ci. Et comme cela lui vaut toutefois d'être insulté, dans son dernier ouvrage, il a décidé, une fois n'est pas coutume, de s'attacher au réel de sa personne, de dire qui il est, de se présenter en vérité. Vous l'avez certainement compris, nous avons la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Alain Finkielkraut de l'Académie française, qui vient de publier aux éditions Gallimard « À la première personne ». Un livre qui tient tout à la fois du récit, de l'autobiographie intellectuelle et peut-être aussi du mémoire en défense. Alain Finkielkraut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reprends mon interrogation. Comment qualifieriez-vous cet ouvrage qui est un petit peu un ovni puisqu'il est à la frontière de l'échappotypologie.
Voilà. Comment qualifier cet ouvrage? C'est un essai qui est aussi un récit. J'essaye, en effet, de retracer mon parcours indissolublement intellectuel et existentiel. Cette idée ne me serait pas venue tout seul. J'ai été sollicité par Rana Levy, historien qui est un éditeur chez Gallimard. Il m'a parlé de l'édition d'une sélection de mes essais dans la prestigieuse collection Quarto. Il voulait la faire précéder d'une longue préface, et cette préface, avec son aide, est devenue un livre. Et l'occasion m'a semblé bonne, étant donné que j'atteins déjà l'âge canonique de 70 ans, de regarder en arrière, et peut-être de réfléchir, en effet, à la réputation qui m'est faite et de savoir si, comme on le dit souvent, comme des éditorialistes le proclament à intervalles réguliers, je suis un réactionnaire. Voilà l'ensemble en vrac des motifs qui m'ont poussé à faire ce livre.
Alors comme il s'agit d'un récit, il a un début et une fin, et au commencement, ce n'est pas la première phrase du livre, mais c'est la phrase du premier chapitre, parce que c'est chronologique, c'est un itinéraire qui est décrit. La première phrase, c'est « Au tout début était le conformisme ».
Oui, j'ai voulu, par cette première phrase, rompre avec ce qui est en train de devenir l'idée reçue de 68, et à travers 68, l'idée reçue de la jeunesse. la jeunesse, c'est le temps de la ferveur, l'ouverture de tous les possibles, dit-on. Et en 68, une jeunesse en colère s'est révoltée contre le carcan que la bourgeoisie imposait à l'existence. Peut-être y a-t-il une part de vérité. On se souvient de ces slogans, il est interdit d'interdire, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. On ne peut pas nier la part que les situationnistes ont jouée en 68, mais il faut reconnaître aussi que les événements ont pris au dépourvu leurs acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que en mars 68, il n'y avait pas de révolutionnaires parmi les jeunes. Il y avait quelques groupuscules, bien sûr, mais il y avait une jeunesse majoritairement de gauche, bien sûr, notamment la jeunesse bourgeoise. Et tout d'un coup, les événements ont survenu et nous sommes devenus révolutionnaires du jour au lendemain. Ce qui veut dire quand même que nous avons voulu rompre avec l'imitation des anciens en nous imitant les uns les autres. Et à regarder de plus près, on peut constater en effet que la jeunesse, c'est l'âge malléable par excellence. L'âge où la tyrannie de la majorité joue très fort, sauf que ce n'est pas la majorité en général, c'est la majorité de ses pairs, P-A-I-R-S. Donc j'ai fait allégeance à ma génération en me révoltant contre les diktats, ou ce qui m'apparaissait comme les diktats de la génération antérieure. Cours, le vieux monde est derrière toi, disions-nous, mais le jeune monde réclamait une homogénéité sans faille. Voilà ce que j'ai voulu dire pour un peu désamorcer le mythe de 68, mais il y a un autre aspect sur lequel je n'insiste peut-être pas dans le livre, mais qui, je crois, est important, c'est que nous étions nés, nous les 68ards, nous les baby-boomers, à l'ombre de la grande tourmente, de la grande épreuve, et que nous avions des complexes, si j'ose dire. Et justement, le mot complexe m'évoque immédiatement une phrase de Sartre, très belle, mais qui ne pouvait qu'être formulée justement après la guerre. Le secret d'un homme n'est pas son complexe d'Œdipe, mais son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Alors il y avait un côté hédoniste dans 68, mais il y avait aussi ça, c'est-à-dire aurions-nous été capables nous-mêmes de résister, de prendre le maquis, ou nous serions-nous planqués? Nous rêvions d'être à la hauteur, pour trouver grâce à nos propres yeux, d'où l'orgie analogique de 68, si vous voulez, et CRSSS, et puis ce numéro des temps modernes paru peu après, Nouveau fascisme, nouvelle résistance. Nous nous prenions pour des révolutionnaires, mais plus encore pour des résistants. C'était à la fois pathétique et ridicule. Voilà. Mais bon, en même temps, je ne veux pas non plus, si vous voulez, me montrer ingrat ou méprisant à l'égard de ce moment de mon existence. Il fallait bien essayer de s'en sortir vis-à-vis de nos aînés. Alors nous le faisions mal, mais cette tentative avait quelque chose de sincère. Et puis, en 68, il y a ceci d'extraordinaire, que tout le monde parlait avec tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé au moment de Nuit debout. Et Nuit debout, tout le monde a dit, voilà, c'est le nouveau 68 de la génération. Mais pas du tout. Nuit debout, c'était une révolte sous cloche. Place de la République, les gens faisaient leur petite agora nocturne, ils parlaient, ils discutaient ensemble, d'ailleurs.
Dans l'entre-soi, vous voulez dire.
Oui, en entre-soi, puisque aucune position divergente n'était évidemment tolérée. Mais surtout, à côté, c'était l'indifférence totale. C'est-à-dire, les gens passaient sans regarder. Ils n'en avaient strictement rien à faire de Nuit debout. Alors qu'au contraire, 68 intéressait tout le monde. Les événements, même si des gens pouvaient être hostiles, ça discutait dans tous les sens et dans tous les coins. Voilà pourquoi, sans avoir la nostalgie de 68, je n'ai pas un regard exclusivement négatif sur ce moment de ma vie. Mais j'ai commencé à penser par moi-même après.
Oui, alors, vous décrivez cette ambiance quand même de très forte imprégnation idéologique, de mimétisme entre jeunes, mimétisme générationnel. Quel est le déclic qui fait que beaucoup n'en sont pas sortis d'ailleurs, en tout cas pas aussi vite. Parce que si je comprends bien, c'est presque aussitôt.
Oui, écoutez, le déclic pas tout à fait aussitôt. Non, au contraire, parce qu'en 68, je me suis retrouvé, pour des raisons que je ne m'explique pas encore, Mao. Il fallait bien choisir dans le grand prospectus de la Révolution son secteur, son département, son camp. Je me suis retrouvé Mao. Et puis, ça n'a pas duré. Mais après, j'ai milité dans un petit groupuscule qui s'appelait Matériaux pour l'intervention et qui était très influencé par le marxisme italien, Mario Tronti, Tony Negri. Donc c'était la pré-autonomie, et je me vante pas, si vous voulez, parce que les autonomes c'était ce que sont aujourd'hui les Black Blocs. Alors moi je donnais pas dans les meutes, mais si vous voulez, il y avait une radicalité révolutionnaire qui m'a quand même fasciné longtemps. J'ai même milité à un moment donné à la gauche du gauchisme pour être le surmoi, parce qu'il y a un surmoi révolutionnaire très fort. Mais justement, à ce moment-là, il fallait avoir personne à sa gauche pour incarner le surmoi. Donc j'ai joué cette carte-là à quelques années. Et puis, c'est vrai, je connaissais Pascal Bruckner depuis 1967. Nous nous étions rencontrés à Dublin, nous étions en Hippocagne, au lycée Henri IV l'un et l'autre, mais pas dans la même Hippocagne. Nous nous sommes retrouvés à Dublin, une amitié est née, nous nous voyons beaucoup, et puis l'idée nous est venue d'un livre, Le Nouveau Désordre Amoureux, qui prenait ses distances avec l'idée de révolution sexuelle. C'est-à-dire, c'était une manière de démystifier l'un des idéaux les plus forts de 68. Ça, nous l'avons fait dans ce livre. C'était donc déjà une première mise à l'écart. Et là, je dois beaucoup à la rencontre avec Pascal et aux discussions que nous avons eues ensemble. Et puis, il y a eu cette chance pour moi qu'a représenté la lecture de Kundera, que j'avais faite dès 68, il faut le reconnaître. Août 68, c'est l'écrasement du printemps de Prague, un événement d'une importance beaucoup plus grande que mai 68, et puis la parution de La Plaisanterie. J'ai lu La Plaisanterie, j'ai lu les romans qui ont suivi, j'ai rencontré Kundera en 1978, je crois. De cette rencontre, une amitié est née, et au fond, c'est grâce à son influence que j'ai pensé par moi-même, parce qu'on ne pense pas par soi-même de soi-même. Des livres, des rencontres vous aident à sortir de la gangue générationnelle dans laquelle vous êtes pris.
Justement, le livre s'appelle « À la première personne », mais on est frappé d'emblée par le fait qu'au fil des pages, vous ne cessez de rendre grâce et vous ne vous décrivez quasiment que par vos lectures et vos rencontres intellectuelles. Il y a un chapitre qui s'appelle « Rencontre ». L'ensemble de l'ouvrage aurait pu s'appeler « Rencontre ».
Oui, vous avez raison. Et parce que je suis comme ça, d'ailleurs. Il m'est parfois reproché, plus ou moins gentiment, de citer beaucoup dans mes livres. Mais peut-être que mon dernier livre ne sera qu'un recueil de citations. Peut-être trouverai-je la sagesse ultime dans la pensée d'un certain nombre de gens. D'ailleurs, j'ai commencé un cahier de citations il y a bientôt 20 ans, et maintenant j'en ai 15 ou 20, ce qui fait d'ailleurs que je ne retrouve plus les citations que j'aime, parce que je ne sais pas dans quel cahier je les ai inscrites, et comme je ne me sers pas d'Internet, c'est devenu un inextricable désordre. Oui, c'est vrai, je disais, je ne pense pas par moi-même de moi-même. Et c'est Ricoeur, encore une citation, qui dit que c'est par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture, qu'on accède à une meilleure connaissance de soi et à une meilleure compréhension du monde. Ça, c'est, je crois, le pari de l'humanisme, l'humanisme de la Renaissance, et de cet humanisme-là, je me réclame. Et en effet, dans ce livre à la première personne, je tiens aussi, pour dire exactement ce que je suis, ce que je pense, comment je vois les choses, je tiens à payer mes dettes. Et la dette initiale, la dette la plus importante, c'est à l'égard de Milan Kundera, Et voici pourquoi. Voilà pourquoi j'ai dédié mon livre à Kundera. Parce que j'ai fait des études de lettres. J'ai passé une agrégation de lettres modernes. Je suivais le séminaire de Roland Barthes. Mais à ce moment-là, régnait dans les études de lettres ce que Antoine Compagnon a appelé le démon de la théorie. Et cette théorie avait une définition très tranchante du modernisme. Le modernisme en littérature, c'était la rupture avec la représentation, en littérature comme en peinture. Et il y avait une sorte de chemin parallèle, fin de la mimésis, dénonciation de ce qu'on appelait l'illusion référentielle. Il fallait chercher des livres qui ne racontent pas, qui ne soient pas l'écriture d'une aventure, mais comme l'a dit Jean Ricardou, un des principaux théoriciens de cette époque, l'aventure d'une écriture. On cherchait ça, et c'est ce qu'on trouvait, disait-on, dans le nouveau roman, qui se débarrassait de l'intrigue, qui se débarrassait du personnage, qui invitait à une fête du signifiant, disait Roland Barthes. Et donc, il y avait un écart, pour moi, entre ce que m'apprenait la théorie littéraire en vigueur et mes propres goûts et ma façon même d'appréhender, d'aimer la littérature. Et Kundera m'a réconcilié avec moi-même, parce qu'il arrivait en France avec une toute autre définition du modernisme. Il disait être moderne, c'est avancer par de nouvelles découvertes sur la route héritée. Vous voyez, il n'y avait pas de rupture, c'est l'allergie, évidemment, des gens d'Europe centrale et orientale à toute idée de la table rase. Le roman ne fait pas table rase, et le roman fait des découvertes. Donc, il n'y a pas d'illusion référentielle, il y a une appréhension par le roman du réel, de l'existence, du phénomène humain. Il y a un livre d'Hermann Broch, un recueil d'articles d'Hermann Broch, que Kundera place très haut, qui s'intitule, je crois, « Création littéraire et connaissance ». Donc, Kundera m'a fait voir les choses tout autrement, la modernité tout autrement, et ça m'a aidé, moi-même, à redevenir le littéraire que j'aurais cessé d'être, paradoxalement, si j'avais complètement succombé au démon de la théorie. Donc sans lui, et je n'aurais sans doute pas écrit « Un cœur intelligent » ou « Essieux les amours de Ray », qui sont des analyses littéraires, mais qui analysent des romans comme précisément des explorations, des investigations du monde et de l'existence humaine. Voilà. Et puis Kundera, paradoxalement aussi, m'a éclairé sur la réalité politique. Je dis paradoxalement parce que Kundera n'est pas un penseur politique et il ne s'engage pas. Il a l'engagement, étant donné son expérience, lui fait horreur, parce que en Europe centrale et en Europe orientale, l'engagement, c'était un embrigadement. Et d'autre part, il ne veut pas que ses positions publiques puissent faire écran à son œuvre. Il sait que, voilà, il veut disparaître dans son œuvre. Son idéal, c'est Flaubert. Être comme Flaubert, c'est-à-dire, son moi n'a aucune importance, ni ses engagements. Il n'en reste pas moins qu'il y a, chez Kundera, une pensée politique, dans ses romans, mais aussi dans un article, pour moi séminal, écrit en 1983, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Un Occident kidnappé, c'est déjà pour nous autres, jeunes adultes des années 70-80, une surprise et même un oxymore. L'Occident, c'était la puissance, c'était la force. Alors une force qui pouvait être vaincue, mais comme au Vietnam. Mais enfin, un Occident kidnappé, on ne pensait même pas cela possible. Et il dit, mais la voilà la vraie tragédie de l'Europe centrale. Évidemment, il y a un problème politique qui est l'opposition du totalitarisme et de la démocratie, mais ce problème politique ne se résume, comment dire, ne se définit pas simplement par des catégories politiques. Il y a aussi un problème de civilisation. La civilisation russo-soviétique qui veut faire main basse sur une partie de la civilisation occidentale. Et c'est dans cet article que les termes d'identité m'apparaissent pour la première fois. Identité, mot qui m'a tant été reproché, eh bien c'est Kundera qui parle justement et de l'identité nationale et de l'identité européenne, disant qu'elles vont de pair et qu'elles sont l'une et l'autre menacées par précisément la mainmise russo-soviétique. Donc il fait entrer la civilisation dans le vocabulaire politique, il me fait apparaître la réalité de l'Europe sous un tout autre angle. Moi, je voyais l'Europe comme une construction nécessaire, fondée sur des valeurs, parce que toute autre représentation de l'Europe portait en elle un risque d'exclusion. Eh bien, il nous dit non, l'Europe n'est pas simplement une construction, c'est une civilisation fragile, dont nous sommes les héritiers et que nous devons pouvoir continuer et préserver. Et je pense être fidèle à la leçon de Kundera dans les actions, les travaux et les engagements qui sont les miens.
Vous avez prononcé le mot de civilisation fragile. On a le sentiment, en parcourant votre ouvrage, que la vulnérabilité des choses, la fragilité des choses, est quelque chose qui est très très présent dans votre conscience et dans les choix que vous faites. Exact ou non ?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est un thème qui m'obsède aujourd'hui, c'est-à-dire, après tout, je n'étais pas destiné à devenir un patriote français, par exemple. France, pour moi, c'était une carte d'identité. Je ne me plaignais pas d'être français, je constatais quand même que c'était un privilège, mais je ne raisonnais pas, c'était pas important, c'était une donnée. Et en plus, quand je pensais politiquement, c'était d'abord dans les termes de la lutte des classes, et puis ensuite dans les termes de l'opposition entre, je vous le disais tout à l'heure, démocratie et totalitarisme. Voilà ce qui m'importait. Et puis, j'ai vu aussi que la France était fragile, qu'elle pouvait être minée de l'intérieur par la déculturation. La France patrie littéraire, dit aujourd'hui Mona Ouzouf, mais c'était déjà dit dans les premières décennies du XXe siècle par le grand germaniste allemand Ernst Curtius. Aujourd'hui, patrie post-culturelle, ou menaçant de devenir post-culturelle. N'allons pas trop vite. Donc il y a une sorte de phénomène d'évidement. Et puis, je suis le témoin de ce que Gilles Kepel a appelé la fracture française, une France communautarisée, une France où l'intégration ne va plus de soi. Or, s'il n'y a pas assimilation et intégration, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que signifie aujourd'hui l'immigration massive à laquelle nous assistons ? Et tout d'un coup, j'ai éprouvé la France, et là, je cite Simone Veil, comme une chose fragile, précieuse et périssable. Et est né en moi, à ma grande surprise, un patriotisme de compassion. C'est encore ce que dit Simone Veil dans L'Enracinement. Un patriotisme de compassion. C'est tout à fait singulier parce que la France, avec De Gaulle, mais bien avant lui, est associée à la grandeur. La France est la grandeur, c'est-à-dire une idée qui rayonne. Et j'aime cette idée qui rayonne, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui s'impose plutôt, c'est un principe de sauvegarde. Sauver les meubles. Pensons par exemple à la laïcité. Moi, quand j'ai commencé de m'engager dans cette bataille pour la laïcité, au moment de l'affaire de Creil, 1989, on en fête le 30e anniversaire aujourd'hui. Un règlement intérieur du Collège de Creil stipule que les élèves ne doivent pas entrer en classe avec le voile. Elles peuvent porter le voile dans la cour. Deux, trois élèves violent ce règlement intérieur. Elles sont donc exclues temporairement. Ça fait énormément de bruit. Les associations antiracistes protestent contre cette éviction. De même, toutes les églises, Sainte Alliance des clergés, avec Régis Debray et Elisabeth Deninter, Catherine Kister et Elisabeth de Fontenay, nous publions un texte, un manifeste, Prof ne capitulez pas, qui a un certain écho, mais au départ, effectivement, pour moi, la laïcité que je défendais, c'était une valeur universelle. Bien sûr, en même temps que je me disais ça, oui, mais parce que je militais pour l'égalité des hommes et des femmes. Mais force m'est de constater aujourd'hui que d'autres pays sécularisés voient les choses tout autrement et considèrent que le voile est une sorte, peut-être une manifestation de la liberté de conscience. Personnellement, je pense qu'ils ont tort. Mais je me dis, je dois prendre acte de cette division au sein même du monde occidental. Et donc je suis amené à assumer la particularité française, la forme française de la laïcité en tant que telle. Et voilà, donc je suis à nouveau ramené à une identité fragile, mais à laquelle je tiens en dépit de sa fragilité. La France n'a pas choisi encore la voie du multiculturalisme. Elle n'est pas en mesure d'exporter son option, sa façon d'être, mais elle doit être en mesure de la faire vivre chez elle.
L'idée dominante, finalement, c'est de... Je reprends le parcours depuis mai 68, qui est probablement une rupture, et en tout cas qui met en avant le principe de rupture en le confondant probablement avec l'émancipation. On a le sentiment que l'ensemble de votre œuvre, c'est d'aller contre cette idée-là, d'expliquer que la liberté passe par l'héritage et la transmission, une réhabilitation de l'héritage. Est-ce cela, finalement ? Au-delà des épithètes qui vous sont données, être réactionnaire, pour reprendre celui qui revient le plus souvent, est-ce que c'est pas là le nœud autour duquel le malentendu se noue ? Celui qui veut le transmettre aujourd'hui est vu comme celui qui voulait revenir en arrière.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est un des reproches qui m'est fait, alors que là, vraiment, je vais citer une nouvelle fois, décidément, je n'y échapperai jamais, Hannah Arendt a dit des choses absolument lumineuses dans un article déjà ancien, La crise de l'éducation, 1960. Alors, je veux bien qu'Anna Arendt soit réactionnaire, mais alors là, les mots ont perdu tout sens. Elle dit que les enfants ne sont pas simplement des êtres inachevés. Ce sont des nouveaux venus sur la Terre. Ce sont des immigrés. Tous les enfants sont des immigrés. Et ces immigrés, il incombe aux adultes de les introduire dans le monde. Mais le monde est plus vieux qu'eux. Ben ça, forcément. Le monde n'est pas l'avenir. Et ce sont les parents et les professeurs qui assument cette responsabilité pour le monde. Mais dit-elle, c'est quand ils sont introduits dans ce monde qu'ils peuvent développer leur capacité révolutionnaire. Car elle dit... Elle insiste sur la liberté, Hannah Arendt, comme commencement. La liberté, c'est la possibilité de commencer quelque chose de neuf, et elle lie donc la liberté à la natalité. Un enfant nous est né, quelque chose de nouveau apparaît sur la Terre. Mais pour que cette nouveauté, si vous voulez, se traduise dans les faits, eh bien, elle a besoin d'un monde antérieur à elle. Et... il est très coupable pour les adultes de ne pas assumer cette responsabilité. Donc, elle dit ceci. Il faut que l'éducation soit conservatrice, précisément pour offrir aux enfants la possibilité de commencer quelque chose de neuf pour leur permettre d'exercer leur capacité révolutionnaire. Et c'est cette dialectique-là qui est complètement oublié de nos jours, parce que Chesterton disait encore une citation, que le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles, je crois que le monde est aussi plein de principes modernes, démocratiques, devenus fous. Et notamment le principe d'égalité. Nous succombons à la folie de l'égalité. La FCPE, une fédération de parents-élèves particulièrement active, justement, part de l'égalité de tous avec tous. Donc, l'égalité en France des Français d'origine française et des Français récents, ce qui fait qu'une dernière affiche de la fédération, de cette fédération de parents d'élèves, présente une femme voilée qui accompagne, qui fait des sorties scolaires et qui dit « j'ai bien le droit de sortir avec mon voile » ou quelque chose comme ça, mais aussi présente les enfants comme des acteurs de leur propre éducation. Donc si vous voulez, l'idée d'égalité, évidemment, qui est capitale dans l'espace politique, est envahie tous les secteurs de la vie, notamment l'école. Voilà. Pourquoi transmettre une vieille culture à des enfants qui ont la leur ? Qui ont la leur. Et à des adolescents, qui plus est. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, il est très difficile d'affirmer la supériorité de la poésie sur le rap. J'étais dans une émission de télévision l'autre jour et je me suis fait réprimander par une chroniqueuse, Rokhaya Diallo, parce que j'exprimais mon scepticisme quant à la valeur poétique du rap. Mais non, non. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, sans susciter justement des critiques, sans être traité de réactionnaire, que, je ne sais pas moi, Baudelaire, c'est plus profond qu'Abdelmalik. Et donc, dans cette situation, en effet, la transmission est en péril. C'est un certain délire de l'égalité, une hubris de l'égalité qui, aujourd'hui, rend la transmission de plus en plus difficile. Et quand je me heurte à cette hubris, quand je la condamne, quand je la combats, je suis en effet traité de réactionnaire.
Est-ce qu'un des autres points autour duquel se noue ce drame, puisque c'en est un, ou cette tragédie, je ne sais pas comment il faut dire, n'est pas l'hubris individualiste ? C'est-à-dire cette idée qu'on se construit soi-même, oui. C'est lié. Hein,
c'est la même chose.
Mais à l'échelle de l'individu.
C'est une autre facette de la même médaille.
Voilà. Oui. Il n'y a plus d'identité héritée, il n'y a plus qu'une identité de projet, de perpétuel.
Oui, c'est vrai. C'est
vrai. Perpétuel projet. Quelles sont, selon vous, les sources de ce délire de toute puissance de l'individu ?
Ouais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il en va de la liberté comme de l'égalité. C'est une folie et qu'on voit très bien s'exercer dans ce que ces adeptes eux-mêmes refusent d'appeler la théorie du genre. C'est tout à fait fascinant parce que la liberté est, disons, hypothéquée par le donné. On ne naît pas n'importe qui. On est homme ou femme. Voilà. Ça, c'est un attribut de naissance avec lequel il faut composer. Il faut composer. Il y en a d'autres. La langue, bien sûr. C'est donc voilà. La finitude. Or, on a l'impression que la modernité, et Hannah Arendt l'avait déjà remarqué, c'est devenu aujourd'hui une rébellion contre la finitude. Et avec le genre, cette rébellion, si vous voulez, se déploie, s'épanouit, car on vous explique que le sexe n'est qu'une construction sociale ou culturelle. Et qui dit construire, dit déconstruire. Par conséquent, vous pouvez, au bout du compte, choisir votre genre. Et c'est ce qu'on fait déjà dans les universités américaines. On vous demande Vous, est-ce que vous vous voyez, homme ou femme, par quel pronom s'applique à vous, etc. Donc, c'est en effet le fantasme de l'auto-engendrement qui est en train de se réaliser à travers cette théorie du genre. Et là encore, toute protestation, toute perplexité, toute incrédulité vous vaut les foudres du politiquement correct qui considère que l'histoire a un sens et ce sens, c'est l'émancipation progressive des individus jusqu'à atteindre une liberté totale et une égalité complète. Et pour eux, ce sens, c'est celui de la démocratie. D'où le paradoxe, aujourd'hui, d'une conception de la démocratie qui ne tolère aucune divergence. La démocratie, c'est le régime de la discussion, de la délibération, de l'affrontement des opinions.
La gestion des divergences, oui.
Une autre idée de la démocratie prévaut, la démocratie comme processus, comme histoire, comme mouvement, comme je disais, vers l'égalité et la liberté totale. Et donc c'est un dogmatisme démocratique de plus en plus virulent, très fort dans le monde intellectuel, ce qui rend la vie intellectuelle si difficile, si asphyxiante aujourd'hui. Alfred Sauvy a une phrase extraordinaire, il dit « Le but de la démocratie n'est pas de s'entendre, mais de savoir se diviser. » Eh oui, ce savoir est fragile, a toujours été fragile. Les anathèmes, les excommunications, les ruptures qui jalonnent notre histoire politique et intellectuelle le prouvent. Mais là, ce savoir se perd du fait de cette conception-là de la démocratie. Raymond Aron parlait du communisme comme de l'opium des intellectuels, mais il y a un nouveau opium des intellectuels nommé démocratie, en ce sens que je viens de vous dire. Et là, nous ne sommes pas désarmés, mais nous sommes dans une situation de péril, de grand péril, parce que nous émettons des doutes, nous interrogeons sur ce processus et bien entendu tombent sur nous les foudres de la nouvelle bien-pensance.
Alors dans ce tableau, je reviens à l'exemple extrêmement éclairant de la théorie du genre et des délires transhumanistes qui se manifestent aujourd'hui et qui montrent quand même une conjonction entre une volonté qui est de l'ordre de l'idéologie ou du fantasme, mais aussi avec la technique. Et je vous en parle car vous consacrez de nombreuses pages à Heidegger, ce qui ne manque pas de courage, et à son analyse de la technique comme paradigme du monde moderne ou postmoderne désormais. Est-ce que c'est pas cette irruption de la technique et son formidable développement qui donne une acuité et une dramaturgie particulière à l'époque présente?
Oui, vous avez raison, mais il faut concevoir la technique avec se mettre pour comprendre la technique au niveau de profondeur où se situe Heidegger. La technique n'est pas simplement un ensemble d'engins, d'instruments, de pistons et de machines. La technique, dit Heidegger, c'est la métaphysique de notre temps, c'est-à-dire la manière dont le monde se dévoile. Et il se dévoile aujourd'hui comme opérable, machinable, exploitable, disponible, optionnel. Donc je pense que nous avons, avec le genre, un rapport technique au sexe. Puisque précisément, ouais, c'est disponible. C'est disponible. Tu veux être garçon, tu veux être fille. Au bout du compte, une fois déconstruit les stéréotypes, ce sera ton choix. Ce sera ton choix. Donc, si vous voulez, c'est le monde qui devient un véritable magasin. Et les identités elles-mêmes sont en magasin. On le voit aussi avec l'évolution des prénoms. Nous vivons dans la civilisation du prénom, c'est vrai. Le nom de famille disparaît peu à peu dans la manière dont les gens s'adressent les uns aux autres. Les lettres que s'écrivaient les écrivains il y a une cinquantaine d'années, c'était « mon cher Sartre, mon cher Camus ». Maintenant, il n'y a plus que Albert et Jean-Paul, c'est pas possible. Mais justement, il n'y a pas non plus Albert et Jean-Paul, puisqu'on choisit les prénoms du monde entier.
Voire on en invente.
Ou on en invente, bien sûr, on en invente. Et évidemment, on en invente, mais sinon, c'est un grand magasin, c'est un supermarché, et chacun choisit le prénom qu'il veut. Donc, oui il faut comprendre que la technique, c'est cela, que nous avons aussi un rapport technique à la langue. La langue est un rapport purement fonctionnel. La langue n'est plus un héritage, c'est devenu un service. D'où d'ailleurs l'irruption des mots, non de l'anglais, mais du globish, qui atteste ce rapport purement fonctionnel aux choses et à la langue elle-même. Et tout cela, en effet, trouve d'ailleurs son acmé dans le tourisme. Car le tourisme, c'est un monde mis entièrement à la portée de la main. C'est-à-dire, rien n'est inaccessible, rien n'est indemne, tout doit être consommé. Et le tourisme, aujourd'hui, participe à la dévastation de la Terre. Et je dis ça, je ne prends pas le point de vue de Sirius. Je suis un touriste moi-même. Simplement, je m'abstiens d'aller dans les régions que je pourrais contribuer à abîmer moi-même. Et je me rends compte qu'elles sont de plus en plus nombreuses.
Nous ne sommes pas arrivés au terme de l'émission, mais force est de constater qu'en suivant votre évolution intellectuelle, on a comme une photographie quand même de l'ensemble des mutations intellectuelles qui ont affecté la France, l'Europe et probablement l'Occident lors des 60 dernières années. Un peu comme le sismographe de la pensée contemporaine.
Non. Écoutez, c'est très flatteur que vous me disiez cela. Je ne sais pas exactement. Il est vrai que je conçois en tout cas mon travail philosophique, s'il peut mériter ce nom, comme un effort pour diagnostiquer le présent. Et le modèle qui est le mien, même si je sais toute la distance qui m'en sépare, c'est Peggy, qui avait toute la puissance d'un philosophe et qui, comme il le disait, travaillait par quinzaine, puisque c'est dans les cahiers de la quinzaine que s'est épanoui son génie, à ses risques et périls. C'était dans des textes de circonstances qu'il a forgé les concepts les plus importants, et c'est depuis peu qu'il est reconnu par les philosophes comme un grand philosophe, et d'abord d'ailleurs Walter Benjamin et Hannah Arendt. Sa reconnaissance philosophique est venue de l'étranger. Après, il y a eu Gilles Deleuze, et maintenant, les malentendus que lui ont valu sa récupération par Pétain sont en train de s'estomper. Il est remis à sa juste place. Mais voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye de travailler. La question philosophique, par excellence, autant de la métaphysique triomphante, c'était qu'est-ce que ? La question que je me pose, qui me hante, qui me tourmente, c'est qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une autre question qui peut nous hanter face à ce tableau, c'est que faire ? Je ne vous demande pas un programme politique, hein, pas de malentendu, mais que faire ? Que faire pour préserver la beauté du monde ? Que faire pour se préserver la laideur ? Que faire ? Que faire ? Que faire ?
Ben, que faire ? Il faudrait que l'écologie s'empare de cette question. Or, l'écologie est aujourd'hui totalement imperméable à la beauté. C'est cela qui m'inquiète. Parce que Fabrice Nicolino, dans un très beau manifeste, avait écrit « Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde ». Mais les écologistes raisonnent en termes purement quantitatifs. Ils sont obsédés par les nombres. Ils calculent l'émission de gaz à effet de serre, moyennant quoi ils préconisent la multiplication des parcs d'éoliennes, qui sont une véritable horreur, qui dévastent eux-mêmes le paysage. Donc que faire, je crois, c'est tout doit passer par l'école. Une école digne de ce nom, qui remette les humanités au cœur de l'enseignement, et notamment de l'enseignement secondaire, qui rend toute leur place, notamment aux poètes, Alors, eux ont quelque chose à nous dire que les savants ne nous disent pas sur notre rapport à la nature. Et là, peut-être, les espoirs sont permis. Mais en tout cas, les seuls combats qui vaillent d'être menés aujourd'hui sont des combats d'arrière-garde.
Écoutez, c'est curieux que vous me disiez ça. Je vous sens, en fait, totalement inquiet, certes, mais tourné vers l'avenir. Exactement le contraire de ce dont on vous accable. L'inquiétude, c'est forcément un souci de l'avenir, non ?
Absolument, absolument.
Écoutez, je pense que ça peut faire une bonne conclusion. Il faut se plonger dans votre pensée, peut-être pour renouer le fil et dans votre ouvrage, pour retrouver ce fil. Vous savez comment les gens de ma génération, beaucoup d'entre eux en tout cas, vous voient comme le chaînon manquant retrouvé. La génération des baby-boomers est souvent vue comme cette génération qui était celle de la rupture. Mais
Je suis le chaînon manquant, moi.
Vous êtes le chaînon manquant. Oh. Vous retissez les liens avec ce passé qui manquait de s'évanouir. Et donc, nous en remercions générationnellement. Vous voyez, ce qu'on traite de réactionnaires peuvent être appréciés par des gens des générations suivantes et aussi pour leur souci de l'avenir, car il n'y a pas que Greta Thunberg qui s'en soucie. Donc, l'ouvrage « À la première personne », un ouvrage tout sauf égocentrique par Alain Finkielkraut de l'Académie française aux éditions Gallimard. Merci encore.
Merci à vous.